Je vous invite à lire un chapitre du livre de l'Apocalypse, le premier chapitre. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu. La parole de Dieu est le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son nom et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Il vient avec les nuées, tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui prend part à la détresse, à la royauté et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus, quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix, forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir celui qui parlait. Quand je me fus retourné, je vis sept porte-lampes d'or, et au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine, blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, c'est moi qui suis le premier et le dernier. Le vivant, je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. » Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux sept porte-lampes, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept porte-lampes sont les sept églises. Ça commence fort. Je vous invite ce matin à méditer cette image, ces images de l'Apocalypse. On présente souvent le livre de l'Apocalypse comme annonçant toutes sortes de catastrophes devant survenir à la fin des temps. Et il y a un certain nombre de personnes qui sont en train de chercher où mettre la pandémie dans cette histoire. Cette compréhension du livre nous vient de l'histoire, surtout du Moyen-Âge. Les pères de l'Église n'interprétaient pas l'Apocalypse comme ça, ou très peu. Cette compréhension du texte qui nous annoncerait les derniers jours avant le retour du Christ n'est pas la bonne compréhension. D'abord, Apocalypse signifie révélation, c'est le premier mot. Vous avez remarqué, c'est le premier mot du texte en grec et dans la traduction. Révélation de Jésus-Christ. Donc l'Apocalypse, c'est une révélation sur Jésus. sur Jésus. Pas sur les églises, pas sur nous, pas sur notre vie, notre histoire et les catastrophes qui nous arrivent. Révélation de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dans l'Apocalypse qui va être présenté, décrit, expliqué dans les différents chapitres. On va s'arrêter uniquement au chapitre 1, qui est déjà assez long, qui commence par une introduction au verset 1 à 3, et ensuite, l'auteur Jean salue les sept églises qui sont en Asie. La salutation se termine par une louange, et cette louange est en même temps une présentation de Jésus, une première présentation de Jésus. Et quelle est cette présentation de Jésus? Que nous dit-elle sur lui à la fin du chapitre, du verset 5 et du verset 6? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour son Père et Dieu. Le premier mot qu'on dit sur Jésus, c'est qu'il nous aime. Waouh, quand même! Ça donne à l'Apocalypse une coloration fondamentale. L'amour de Jésus. Première chose que le texte nous dit sur lui. Il est celui qui nous aime. Notre difficulté, c'est que c'est banal d'entendre cela, et que c'est une réalité qu'au-delà des mots qui sont usés jusqu'à la corde, c'est une réalité qu'il nous faut accueillir toujours à nouveau dans nos vies, et pas seulement un point de doctrine bien rangé dans notre cerveau. Jésus nous aime. Comment cela, aujourd'hui, entre-t-il dans notre être intérieur, dans nos émotions, dans nos désirs, dans nos volontés? Jésus nous aime. Pour plagier l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous a aimés hier, il nous aime aujourd'hui, il nous aimera demain. Et pour souligner que cet amour n'est pas juste une belle déclaration, l'auteur de l'Apocalypse va insister sur la façon dont cet amour s'est manifesté et se manifeste aujourd'hui. D'abord, et c'est le deuxième point important après l'amour de Jésus, cet amour s'est manifesté dans ce qu'il nous a délivré du péché, du mal et de ses conséquences, par son sang. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Il nous a délivrés, pas seulement de la punition du péché, mais délivrés du péché lui-même. La vie chrétienne n'est pas seulement une croyance, mais un chemin de libération progressive. C'est ce que les évangiles nous disent quand ils nous parlent d'être des disciples. Un chemin de libération progressive de l'emprise du péché sur nos vies. La troisième chose importante est aussi une preuve d'amour. Il a fait de nous un royaume, des prêtres pour son Dieu et Père. Jésus nous donne une identité et une vocation nouvelles. Ici, cette identité est présentée comme étant prêtre pour Dieu. Qu'est-ce que Jean veut dire quand il utilise cette expression? Ça veut dire quoi? Être des prêtres pour nous? Question à la table. Vous connaissez ce texte par cœur, vous l'avez chanté je ne sais pas combien de centaines de fois, donc vous devez avoir une réponse.
C'est sacrificateur dans le chant. Quand on le chante, c'est sacrificateur.
Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire des prêtres? C'est évidemment une image qui vient de l'Ancien Testament, d'accord? Et on peut traduire par sacrificateur, c'est tout aussi valable. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, seuls les prêtres pouvaient s'approcher de Dieu pour le servir en lui offrant des sacrifices. Et ils le faisaient pour tout le peuple. Seuls les prêtres pouvaient le faire. Si quelqu'un d'autre le faisait, c'était dramatique. Le roi Saül a plongé définitivement quand il a offert un sacrifice au lieu d'attendre Samuel pour faire le sacrifice, par exemple. Ceux qui connaissent cette histoire. Pour s'approcher de Dieu, il fallait passer par un prêtre dans le culte, dans le sacrifice. Et en Jésus, nous avons tous un accès direct à Dieu sans avoir besoin de passer par quelqu'un, sinon par Jésus lui-même. Mais Jésus lui-même nous ouvre définitivement la porte du trône de la grâce, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux. La distance que le péché, mais aussi le fait que Dieu est Dieu et nous sommes des hommes, cette distance est abolie en grande partie, en tout cas pour tout ce qui est du péché, elle est abolie complètement, et nous sommes en proximité avec Dieu, nous pouvons être en proximité avec Dieu à tout moment. Et nous sommes en proximité. Est-ce que nous le vivons ou pas, ça c'est autre chose. Et donc voilà la motivation première de la louange, c'est qu'il nous aime, il nous a libérés et il a fait de nous des personnes en communion étroite avec Dieu, le Père. C'est la première, c'est la façon dont Jésus nous a aimés quand il nous a sauvés. Mais c'est pas seulement le salut, c'est pas seulement une expérience qui s'est passée un jour et des dons que Dieu nous a donnés dans le passé. C'est ce que nous montre la suite du texte. La suite du texte nous montre que Jean est invité à écrire à 7 églises, qui sont les églises qu'on retrouve au chapitre 2 et 3. Et quand Jésus se retourne pour voir qui a parlé, qui a dit ce qui... Qui a prononcé ce commandement, ce que tu vois, écris-le. Il se retourne et il voit Jésus. Et il a une vision de Jésus en gloire. En gloire. Pas le Jésus qu'il a vu en Galilée, mais une vision en gloire. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans la main, dans sa main droite, 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée acérée à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Une vision de Jésus. Une vision qui serait intéressant d'essayer de comprendre, ce qu'on va essayer de faire maintenant. Jean essaie de décrire cette vision, mais il n'y arrive pas vraiment. Il n'y arrive pas vraiment. On voit dans le texte qu'il n'y arrive pas vraiment. Parce qu'il dit tout le temps, ça ressemble à. C'est comme, vous voyez ? C'est pas ça, mais c'est comme. Ça ressemble. Parce qu'il n'arrive pas à dire exactement ce que c'est. Il est obligé d'utiliser des images imparfaites. Qui donnent une idée, mais qui ne suffisent pas à rendre compte de tout. Et on verra, l'Apocalypse est souvent est rempli de « c'est comme, ça ressemble à ». Dans sa description, certains éléments sont plus importants que d'autres. La première chose vraiment géniale, c'est que Jésus se tient au milieu des 7 porte-lampes d'or, ou au milieu des chandeliers, comme donnait la vieille traduction seconde. Et ces chandeliers, ces porte-lampes, c'est les 7 églises. Et donc la première chose que... Enfin, une idée essentielle de cette image, c'est que Dieu est au milieu, c'est que Jésus est au milieu des églises. Il est au milieu des églises aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, comme le montre toute la suite, et notamment les chapitres 2 et 3, Jésus continue à s'intéresser aux églises et à ce qu'elles vivent. Il est attentif à leur réalité. Il est attentif à leur bon côté et à leur mauvais côté. Et dans les chapitres 2 et 3, il va féliciter les églises pour les bonnes choses. Il commence par ça. Et puis, il va les avertir et mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas, pour que les églises ne s'enferment pas dans leurs problèmes, mais qu'elles grandissent et aillent de l'avant. Il est là parce qu'il s'intéresse. Il est au milieu des églises parce qu'il s'intéresse aux églises. Et de la même manière, Jésus s'intéresse aux églises aujourd'hui, y compris la nôtre à Darnay. Il n'est pas indifférent à nos vies communautaires, à nos joies et à nos difficultés. Il se réjouit de ce qui va bien et nous exhorte à continuer à aller de l'avant pour être plus fidèles. Il s'intéresse à notre vie d'église, il parle car il souhaite bénir et continuer à construire les communautés. Il souhaite aussi vivre avec nous, en tant qu'Église et en tant que personne, une communion fraternelle intense et renouvelée. Il est à notre porte, mais il n'entre que s'il est invité. C'est à une église de l'Apocalypse que Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Ce n'est pas un verset pour l'évangélisation dans la Bible. C'est un verset qui nous invite à investir notre relation avec Dieu à la fois en tant que personne et à la fois en tant que communauté. La relation avec Jésus, ça ressemble à toutes les relations. C'est une relation où il faut qu'on y mette du nôtre. Il faut qu'on l'habite, il faut qu'on l'investisse. Sinon, il ne se passe rien. C'est une relation comme avec des amis, comme avec un conjoint, comme avec des parents, que sais-je. Il faut habiter cette relation, sinon elle meurt. C'est clair. Je ne vous apprends rien. Et bien, aussi bizarre que ça puisse nous paraître, c'est pareil avec Jésus. Et avec la Trinité en général. Il demande de notre part que nous habitions, que nous investissions la relation avec lui, sinon il ne se passe rien. Et que d'une manière consciente et volontaire, nous lui disions régulièrement, entre, entre dans la vie de nos églises, entre dans notre vie personnelle, et reste, reste, viens manger avec, je veux dire rester avec lui. On ne peut pas dire ça une fois pour toutes, il faut régulièrement réinvestir notre relation avec le Seigneur. Les dimanches matins, la prédication sert à nous rappeler que Jésus frappe à notre porte, à faire retentir cette voix, à faire retentir ce bruit toc-toc à la porte. Peut-être nos oreilles sont-elles parfois encombrées de tant de bruit que nous ne percevons plus ce bruit-là. Peut-être avons-nous entendu, mais nos cœurs sont remplis de tant de choses, de désirs divers, d'idées fausses ou de stress que nous ne voulons ou nous ne savons pas comment faire entrer Jésus là-dedans. Parfois même, préférons-nous le laisser à la porte. Aujourd'hui, en 2021, Jésus est là. Et il est là parce qu'il a des. Il veut continuer à marcher avec nous, il veut continuer à construire avec nous une communion et une fidélité. Aujourd'hui, il a des choses à nous dire, des félicitations, comme cette église, et peut-être aussi des choses qu'il voudrait voir améliorer. Il veut se réjouir avec nous dans une communion vivante et renouvelée. Un amour qui se renouvelle, qui vibre, pas un amour qui s'est refroidi au fil du temps et dont il ne reste parfois que le souvenir. Pas seulement savoir qu'il nous aime, mais dîner avec lui. On aime bien manger avec les copains. Non ? Ça nous manque d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Ça nous manque. Eh bien, j'espère que Jésus ne nous dit pas ça de nous, que ça lui manque de manger avec nous. Les sept porte-lampes sont donc les églises. Et les sept étoiles, nous dit le verset 20, sont les anges des églises. Le texte ne dit pas qui sont ces anges. Certains pensent que chaque église a une espèce d'ange protecteur, un ange gardien, dans le monde invisible. D'autres pensent que les anges, dans ce texte, sont les responsables des églises, puisque c'est à eux que les sept églises sont adressées. Écrit à l'ange de l'église de, vous vous rappelez, hein ? Et donc on pense que c'est les responsables de l'église l'image correspond aux responsables des églises. Quoi qu'il en soit, c'est que dans son amour, Dieu donne des anges aux églises pour leur bien, et qu'il communique avec les églises. L'amour de Jésus pour son Église est donc abondamment souligné dans ce chapitre. L'autre chose qui est soulignée, c'est la Seigneurie toute-puissante de Jésus. Quelques extraits. « Je suis le chef Jésus-Christ, le chef des rois de la terre. Verset 5. Jésus dit de lui, « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Et puis la description qu'on a déjà lue au verset 13 à 16 qui souligne la grandeur, la majesté et la gloire de Jésus. Cette puissance souligne la victoire finale de Jésus et nous encourage à la persévérance de notre fidélité. L'Apocalypse a été écrit pour des chrétiens persécutés, pour des églises persécutées, qui se demandent combien de temps ça va durer et qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et l'Apocalypse encourage, par son message, encourage les églises et les chrétiens à être persévérants dans les temps difficiles. C'est ce que souligne l'être notamment, mais pas seulement. La puissance de Jésus ne se déploie pas pour sortir les églises des difficultés qu'elles rencontrent, mais elle est un encouragement à tenir bon, dans la certitude que, quelles que soient les difficultés, l'Église s'en sortira par la grâce et la puissance du Christ. Et la puissance de Jésus dont parle l'Apocalypse est là pour donner sens à la persévérance des croyants et de l'Église. Pas pour rêver à un ailleurs où tout irait bien, où on serait préservé des problèmes du monde, mais pour persévérer et tenir bon dans ces problèmes-là. Et temps de conclure. Premièrement, continuons à accueillir toujours à nouveau Jésus dans notre vie. C'est régulièrement que dans la prière personnelle et communautaire, nous devons dire « Je ou nous t'ouvrons la porte de ma vie, de notre vie. » Je veux, nous voulons une communion renouvelée avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, le Tout-Puissant s'intéresse à nous et frappe à notre porte. Dans le monde humain, dans le monde, plus les personnes ont des postes élevés, plus ils ont de l'importance, de l'influence, du pouvoir, plus ils ont tendance à s'éloigner des autres. Les ministres, les présidents, les rois, ça nous paraît très loin de nous. Non ? Et je me demande si parfois, dans notre tête, nous ne pensons pas la même chose avec Jésus. Il est tellement grand et tellement puissant qu'il est loin de nous. Ça, c'est pour la France. J'ai habité 6 ans en Belgique, et en Belgique, on dit que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît la famille royale. Mais ils sont quelques millions en Belgique, hein, ils sont pas très nombreux. En France, c'est différent. Maintenant, nous avons peut-être cette image, plus ou moins consciemment, que Jésus est bien trop grand pour s'intéresser à ma vie, ou pour s'intéresser à la petite église de Darnay, pour frapper à ma porte. Il a sûrement mieux à faire. Et c'est faux de penser ça. C'est faux. Jésus, oui, est à la fois infiniment grand, infiniment au-delà de nos capacités, et en même temps, il est tout proche de nous. Et, autre paradoxe, tout en étant tout puissant, il ne veut surtout pas s'imposer à nous. Surtout pas s'imposer à nous. Il est proche, mais il est discret. Il est tout puissant, mais il tape à la porte et il accepte qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas. Nous aimerions parfois sentir sa présence avec force, mais si c'était le cas, cette présence nous paraîtrait écrasante. Jésus est là sans nous le faire sentir, car il nous respecte, car il nous veut libre d'écouter quand il frappe à la porte, libre d'ouvrir, sans aucune pression, sinon celle de son amour. Ne laissons pas des idées ou des ressentis nous éloigner de Jésus. Mais accueillons cette parole de l'Écriture qui dit qu'il est là aujourd'hui, qu'il sera là demain, après-demain et tous les jours qui suivent. Choisissons aujourd'hui, demain et les jours suivants de lui ouvrir la porte et de le laisser entrer, de le laisser éclairer toujours à nouveau notre vie, nos choix, de le laisser nous consoler des difficultés et nous encourager à tenir bon dans les problèmes. Laissons-le pour entrer, pour éclairer et diriger nos vies et nos relations. Plaçons-nous sous sa seigneurie, sous sa volonté, pour que nous puissions vivre le mieux possible les différents moments de notre vie dans sa lumière, dans son amour. À la famille, dans la famille, au travail, dans toutes les circonstances de notre vie, il y a une manière de le faire avec Jésus ou sans Jésus. En disciple, nous voulons chercher à faire sa volonté en toute occasion. Non seulement Jésus souhaite ça pour nous, mais il peut nous aider à vivre ces choses. Il vient pour cela. Quelle sera notre réponse ? Amen.